VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui édition du mardi 1er août 2017 en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, mobilisation anti-Kabila en RDC, nous ferons le point 24 heures après les manifestations d'hier. Quelques 200 migrants ont donc forcé la clôture entre le Maroc et l'Espagne. Djibouti accueille une nouvelle base militaire chinoise, la première base de Pékin à l'étranger. Au Venezuela, deux chefs de l'opposition arrêtés après l'élection d'une toute-puissante assemblée constituante. Retrouvez Yacouba Ouédraogo à la fin de ce journal pour les sports et Ekia Badou pour la Minute Éco. Mais d'abord le journal. En République démocratique du Congo, les condamnations se multiplient au lendemain de la répression de la manifestation anti-Kabila organisée hier par le mouvement Lucha, lutte pour le changement. ONG locale, internationale et partis d'opposition dénoncent la réaction brutale de la police. Le gouvernement soutient que les manifestations n'étaient pas autorisées. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Si la police nationale congolaise affirme que tous les manifestants arrêtés hier ont été libérés, le mouvement citoyen Lucha, initiateur des manifestations d'hier, souligne de son côté que près de 80 personnes restent en détention à Goma, Butembo, Beni, Lubumbashi et Kindu. L'ONG Amnesty International, elle, dénonce dans un communiqué l'usage excessif de la force par les agents de l'ordre lors de ces manifestations et invite les autorités congolaises à mettre un terme à la répression. Bien que tous les journalistes arrêtés aient été libérés selon l'Union nationale de la presse du Congo, Reporters sans frontières et journalistes en danger déplorent, eux, la vague d'arrestation des journalistes intervenus hier et demandent instamment au nouveau chef de la police récemment nommé de respecter et faire respecter le travail des journalistes par leurs hommes lors des manifestations politiques. Au Sud Kivu, l'UNC de Vital Kamerhe, l'UDPS, l'ARC et les autres formations de l'opposition appellent à une journée ville morte ce mercredi 2 août 2017 pour protester contre la réaction disproportionnée de la police contre les manifestants d'hier. Ces partis exigent également la publication par la CENI du calendrier électoral. Au niveau du gouvernement, le vice-ministre de l'Intérieur, interrogé sur l'attitude et la réaction de la police face aux manifestants, a affirmé que la situation sécuritaire dans les villes où les mouvements citoyens Lucha avaient programmé sa marche ne permettait pas la tenue de cette manifestation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Reporters sans frontières et l'association Journalistes en danger déplorent les arrestations de journalistes dans plusieurs villes de la RDC. Au moins 15 journalistes ont été interpellés, arrêtés et parfois même agressés selon ces organisations. Au Kenya, quelques dizaines de militants des droits de l'homme sont descendus dans les rues de Nairobi pour dénoncer le meurtre d'un haut responsable de la commission électorale. Chris Msando était chargé de superviser le système électronique d'identification des électeurs et de comptage des voix, considéré comme essentiel pour éviter un éventuel trucage du scrutin. Les élections générales sont prévues le 8 août. En Angola, le gouvernement accepte finalement l'envoi de 4 observateurs de l'Union européenne pour les élections générales du 23 août. Les autorités avaient pourtant refusé leur déploiement le mois dernier. Quelques 200 personnes ont tenté de forcer la clôture entre le Maroc et l'Espagne. 73 migrants ont pu entrer à Ceuta, l'enclave espagnole. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les migrants ont utilisé des cisailles et des masses pour forcer l'ouverture des portes. 15 d'entre eux et 3 gardes civils ont été blessés. Ceuta et Melilla, deux enclaves espagnoles au Maroc, sont régulièrement le théâtre de tentatives d'entrée massive de migrants africains en Europe. En février, 850 sont parvenus à Ceuta en seulement 4 jours. Ils ont pu franchir les deux hautes clôtures grillagées sur 8 kilomètres. En mars et en juin, deux voitures ont forcé le passage du poste frontière de Melilla. Melilla et Ceuta sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne.
Aussi, 8 corps ont été retrouvés en Méditerranée sur des embarcations en provenance de Libye. Environ 500 personnes ont été secourues sur 4 embarcations repérées à la dérive. C'est ce qu'ont indiqué les gardes-côtes italiens. Et dans le même temps, la Commission européenne appelle les ONG à signer un code de conduite régulant leurs activités de secours au large de la Libye. Ce texte prévoit d'interdire aux ONG de s'approcher des eaux libyennes et de communiquer avec les passeurs. Il exige aussi la présence d'un policier à bord et Médecins sans frontières l'a rejeté. La Chine a inauguré aujourd'hui à Djibouti sa première base militaire à l'étranger, aux portes de la mer Rouge. John Lindon.
L'ouverture de cette base a été faite en présence du numéro 2 de la marine chinoise et du ministre de la Défense de Djibouti. Elle coïncide avec le 90e anniversaire de la fondation de l'armée rouge. Dans un discours à Pékin, le président Xi Jinping a assuré que son pays était confiant de pouvoir vaincre toute invasion potentielle. Cette base logistique est la première du genre pour Pékin. Le ministère chinois de la Défense a indiqué qu'elle servira à soutenir les escortes navales en Afrique et au Moyen-Orient et les opérations de maintien de la paix. Le premier contingent de soldats chinois est arrivé le mois dernier. La marine chinoise est présente depuis fin 2008 au large de la Somalie et dans le golfe d'Aden pour combattre la piraterie. Djibouti compte déjà des bases militaires françaises, américaines et japonaises. Ce petit pays de la Corne de l'Afrique, situé sur le détroit de Bab el-Mandeb, est un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde.
Accident de la route à Madagascar. Au moins 34 personnes sont mortes à bord d'un autocar qui transportait de jeunes fidèles protestants vers le nord du pays. Le bus a mal abordé une montée et est tombé dans un ravin.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Venezuela, deux des chefs de l'opposition, dont le maire de Caracas, ont été arrêtés aujourd'hui, alors que le pays est sous le coup de sanctions des États-Unis après l'élection dans le sang d'une toute-puissante assemblée constituante voulue par le président socialiste Nicolas Maduro. On fait le point avec Jack Aristide.
Les opposants Leopoldo López et Antonio Ledezma avaient tous deux appelé à ne pas participer à l'élection dimanche dernier de cette constituante. Leur arrestation a été condamnée par la communauté internationale. La coalition de l'opposition a appelé à une nouvelle protestation ce mercredi à Caracas pour dénoncer l'illégitimité de la nouvelle assemblée dont les 545 membres vont désormais diriger le pays pour une durée indéterminée. Pour l'opposition, qui contrôle le Parlement depuis 2016, cette élection n'a été tenue que pour prolonger le pouvoir du président Maduro, dont le mandat s'achève en 2019. Washington a également qualifié le scrutin d'illégitime et Maduro de dictateur. L'administration Trump a annoncé le gel de tous les avoirs que posséderait le président vénézuélien aux États-Unis. Il a réagi en déclarant qu'il n'obéissait pas aux ordres impérialistes et qu'il était un président libre. Le scrutin de dimanche a été marqué par des violences meurtrières. Plus de 120 personnes ont été tuées en 4 mois de manifestations anti-Maduro.
Et puis, les tensions qui persistent entre Washington et Moscou. Le vice-président américain Mike Pence affirme que le président Donald Trump approuvera prochainement les nouvelles sanctions visant la Russie. Il faut dire que la Russie a riposté en imposant une réduction des personnes travaillant dans les missions américaines sur le sol russe. En Afghanistan, une explosion a frappé ce soir une mosquée de Herat, dans l'ouest du pays, près de la frontière avec l'Iran. Des sources officielles évoquent une voiture piégée. Et en Jordanie, le Parlement abolit une loi autorisant un violeur à épouser sa victime. Les auteurs ne pourront plus échapper à la prison et les femmes ne seront plus contraintes d'épouser leur bourreau. Voilà pour ce bulletin d'information. Je rappelle rapidement les grands titres. En RDC, les condamnations se multiplient au lendemain de la répression de la manifestation anti-Kabila organisée hier par le mouvement Lucha. Reporters sans frontières et l'association Journalistes en danger déplorent les arrestations de journalistes dans plusieurs villes de la RDC également. Au Kenya, quelques dizaines de militants des droits de l'homme sont descendus dans les rues de Nairobi pour dénoncer le meurtre d'un haut responsable de la commission électorale. En Angola, le gouvernement accepte finalement l'envoi de 4 observateurs de l'Union européenne pour les élections générales. 8 corps ont été retrouvés en mer Méditerranée sur des embarcations en provenance de Libye. Et dans le même temps, la Commission européenne appelle les ONG à signer un code de conduite régulant leurs activités de secours au large de la Libye. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et Kébadou, la Minute Éco.
E-paiement pourrait devenir une solution de guichet unique pour 8 pays africains, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et le Sénégal. Des accords ont été signés entre les entreprises Total et Worldline avec la fintech africaine InTouch afin de permettre le guichet unique avec des réseaux de distribution pour les paiements sécurisés et offrir des prestations de services. Déjà déployé dans plus de 170 stations Total et plus de 600 points de vente indépendants au Sénégal, le guichet unique traite plus de 30 000 opérations par jour dans ce pays. L'objectif est d'atteindre 5000 points de vente à travers l'Afrique. Le ministère de l'Investissement et de la Corporation internationale de l'Égypte et l'agence régionale COMESA viennent d'annoncer la reconduite du forum Sharm el-Sheikh for Africa 2017. Pendant 3 jours, 1000 participants, dont des chefs d'État et des dirigeants d'entreprise, sont attendus dans le but de promouvoir le commerce et l'investissement en Afrique. En septembre 2019, l'île Maurice sera dotée d'un métro léger capable de relier la capitale Port-Louis à la ville Curepipe, dans le centre de l'île, sur un tracé de 26 km. Le coût du projet est estimé à 460 millions d'euros. Les travaux vont débuter en septembre prochain. Il sera financé par un don indien de 240 millions d'euros et le reste par une ligne de crédit à des conditions avantageuses ouvertes par le même gouvernement indien.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Où est Neymar? Où va-t-il signer? C'est la question brûlante à 222 millions d'euros qui anime le mercato cet été en football.
Doha, Paris ou Barcelone, mais où va Neymar? Lui-même s'en amuse, l'attaquant brésilien du FC Barcelone de retour de Chine s'est signalé ce mardi à Dubaï. Il a laissé entendre qu'il rentrait en Espagne alors que des sources l'évoquaient à Doha ou à Paris. Le FC Barcelone et l'entourage de Neymar confirment que le joueur rentre à Barcelone. En effet, il y a entraînement ce mercredi et la vie normale devrait reprendre son cours. La reprise du Barça après la tournée américaine a en effet été fixée à mercredi matin selon une source du club catalan.
En tout cas, le Barça a bloqué le paiement d'une prime à Neymar.
Et oui, le club a confirmé avoir bloqué le paiement d'une prime de 26 millions d'euros. Cette prime avait été négociée il y a un an quand le joueur déjà approché par le Paris Saint-Germain avait renouvelé son contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2021. Ce contrat incluait une prime de prolongation pour Neymar à la fin de la première année, ainsi qu'une augmentation de sa clause de cession de 200 à 222 millions d'euros.
La Ligue des Champions en Europe.
Oui, c'est le troisième tour préliminaire retour. L'Ajax d'Amsterdam est favori pour la qualification recevant demain Nice après son bon résultat 1-1 à l'aller. À noter également le CSKA Moscou qui accueille l'AEK Athènes avec 2 buts d'avance. Le Baté Borisov qui doit remonter 1 but face au Slavia de Prague. Et puis le FC Copenhague qui l'avait emporté à l'aller face à Vardar 1-0. Les Young Burns de Berne qui avaient été sèchement battus en Ukraine par le Dynamo 3-1. Et puis le Victoria de Psen avait fait match nul à aller à Bucarest face au JTEA. Enfin, le Partizan de Belgrade aura 2 buts à remonter après sa défaite 3-1 à l'aller sur son terrain contre l'Olympiakos.
Los Angeles jette l'éponge pour 2024 et organisera les Jeux Olympiques d'été en 2028.
La ville californienne a déclaré officiellement sa candidature pour organiser les Jeux Olympiques d'été de 2028. Un accord avec le Comité international olympique qui prévoit que le CIO avancera des fonds au comité d'organisation de Los Angeles. On parle d'une somme évaluée à 1,8 milliard de dollars. En d'autres termes, Paris se retrouve désormais seul en lice pour l'organisation des JO 2024.
Coup dur pour l'athlétisme kényan.
Oui, David Roudisha, double champion du monde et double champion olympique du 800 mètres, a annoncé son forfait pour les mondiaux 2017 d'athlétisme à Londres. Et ce, en raison d'une blessure à un quadriceps. Sacré champion du monde en 2011 en Corée du Sud et en 2015 en Chine, Roudisha avait déjà manqué les mondiaux de 2013 à Moscou en raison d'une blessure à un genou.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour. De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Les Rwandais se préparent à aller aux urnes le 4 août prochain. Le président sortant, Paul Kagame, archi-favori à sa réélection, est salué par ses partisans pour avoir mis fin au génocide de 1994. Il est aussi félicité pour avoir orchestré le développement de son pays. Mais pour ses détracteurs, il demeure un despote inflexible. Solange Nyamulisa, adjoint Innocent Muhoozi, journaliste burundais réfugié au Rwanda depuis 2015.
Il n'y a aucun doute, il n'y a pas de commune mesure entre lui et les autres candidats, pas de suspense sur cette affaire-là. Il est très populaire ici pour des raisons qui sont vraiment objectives. D'abord, c'est lui qui a arrêté le génocide qui était en cours. Il a créé les conditions de vivre ensemble encore pour les Rwandais. C'est un pays où tout le monde pratiquement se sent en sécurité physique. Plus que ça, il a aussi créé ce système de sécurité côté santé qui permet aux Rwandais en fait, de pouvoir se soigner avec une carte d'assurance maladie. Mais également, il a considérablement travaillé sur les questions de sécurité alimentaire qui fait que les Rwandais aujourd'hui souffrent beaucoup moins de malnutrition, même si encore dans certaines régions du pays des problèmes de sécheresse saisonnière. Et puis le pays est un véritable chantier constant.
Sur le plan économique, quels sont les changements observés?
Aujourd'hui, le Rwanda, si vous regardez au classement mondial, ça reste un pays pauvre, avec un PIB qui tourne autour de 750 $, disons, par habitant. Mais malgré cela, c'est le 7e au niveau mondial en termes d'efficacité d'État. C'est un pays où la corruption est très, très, très basse. Le pays le moins corrompu de la région. C'est un pays qui fait des progrès considérables et qui est toujours classé parmi les meilleurs au niveau mondial en termes de rapport de la Banque mondiale. C'est vraiment un pays qui a des performances qui sont reconnues de manière spectaculaire, malgré que ça reste quand même un pays pauvre.
Savez, sur le plan politique.
Sur le plan politique, sur le plan de la vision, c'est un monsieur qui est une sorte de synthèse de beaucoup de révolutionnaires africains. Vous retrouvez un peu de Sankara chez lui, vous retrouvez un peu de Nkrumah chez lui, vous retrouvez un peu de Mandela. Contrairement à tous les autres grands leaders africains, non seulement a une ambition, une vision, mais arrive à transformer cette vision en réalité. Il aborde le problème de sa société de manière pragmatique, mais sans complexe en même temps. Et surtout en se préoccupant fondamentalement de sa population. C'est ce qui manque peut-être terriblement sur le continent africain, et que les gens viennent pouvoir manifestement pour s'enrichir. On voit de manière très claire que personne n'est vraiment au-dessus de la loi. Des gens très puissants dans le système ont eu des moments de disgrâce, ont fait même la prison. Donc c'est vraiment un pays qui est sur une vision très simple de dire nous avons des problèmes, nous pouvons résoudre ces problèmes en comptant sur nous-mêmes, en nous mettant à travailler et en mettant de l'éthique dans la gestion de la chose publique. Il prouve simplement que l'Afrique n'est pas maudite, qu'elle peut s'en sortir avec un leadership sérieux.
Quels sont les défis que rencontrent les Rwandais dans leur vie quotidienne?
C'est le chômage des jeunes. Et ça, c'est une difficulté considérable. C'est peut-être cela qui est en train de faire prendre le choix de l'industrialisation au Rwanda. Mais c'est également d'autres défis sur le plan de l'expression en termes de l'association. Cela, encore une fois, est à mettre dans le contexte de l'histoire récente de ce pays où il y a une priorisation, en fait, d'action à mener par rapport au progrès de cette société. Mais fondamentalement, aujourd'hui, la grande question, c'est vraiment le chômage des jeunes.
Voilà, c'était Innocent Muhoozi, journaliste burundais réfugié au Rwanda depuis 2015.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Les inquiétudes et interrogations que suscitent les rendez-vous électoraux en Afrique. Pourquoi un bon nombre d'Africains n'ont pas ou ont très peu confiance dans les processus électoraux, comme l'indique l'Institut Afrobaromètre? Y a-t-il des différences entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest? Et que faire pour mettre un terme aux irrégularités et fraudes électorales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Kenya, quelques dizaines de militants des droits de l'homme sont descendus aujourd'hui dans les rues de Nairobi pour dénoncer le meurtre de Chris Sando, un haut responsable de la commission électorale. Pour savoir les incidences de ce meurtre sur les élections générales du 8 août, Eric Manirakiza a joint à Nairobi Mutoni Wanyeki, directrice régionale en charge de l'Afrique de l'Est, de la Corne de l'Afrique et de la région des Grands Lacs auprès d'Amnesty International.
Évidemment, l'assassinat était choquant pour tout le monde. Pour nous, les élections concernent les peuples, le droit de voter, le droit d'assister dans la vie publique. L'assassinat vraiment a créé beaucoup de peur.
Il y a eu une manifestation aujourd'hui à un groupe de militants des droits de l'homme. Est-ce que c'est une manifestation qui peut prendre une autre ampleur demain?
La manifestation ce matin, c'est vraiment pour exprimer solidarité avec la famille, solidarité avec la commission, pour dire aux gens au Kenya, ne laissez pas cet assassinat leur empêcher d'exercer leurs droits.
Le Kenya a connu des moments meurtriers liés aux élections. Est-ce que c'est une situation qui peut se répéter?
L'atmosphère vraiment dépend du comportement des institutions publiques. Premièrement, la commission chargée avec les élections doit faire son travail indépendamment, sans peur, selon les lois, la constitution et tout ça. Et les agences de sécurité doivent aussi protéger les peuples. Mais s'il y a une semblance de partisanat, ça devient grave.
Qu'est-ce qui peut expliquer son assassinat? Est-ce que c'était une personnalité gênante au niveau de la commission? Est-ce que l'enjeu électoral se jouait sur la crédibilité de cette personne?
L'usage de technologie est très important dans ce processus. Il était très professionnel, il est chargé avec le système de transmission, le système d'identification des voteurs. Oui, c'est très sérieux de voir ça.
Est-ce que la situation est calme dans le reste du pays?
Oui, les gens sont très fâchés, les gens sont agités. L'assassinat a créé beaucoup de peur aussi. Mais la situation est calme. Il y a des lieux, il y a d'instabilité, la côte.
Quel est le comportement des responsables politiques, opposition, mouvance présidentielle pour calmer la situation?
Ils ont demandé une enquête indépendante, comme tout le monde.
Il n'y a pas de message de pacification.
Mais même le président n'a rien dit. Hein? Les campagnes continuent.
Voilà, c'était Mutoni Yangki à Nairobi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et nous partons au Tchad. Les habitants de la sous-préfecture de Hadjer Hadid, située à l'est dans le département d'Assunga, région du Wadaï, n'ont pas d'eau potable. Ils s'approvisionnent des puits creusés dans le lit du Wadi en provenance du Soudan, avec tous les risques sanitaires que cela comporte. André Komadjingar a séjourné dans cette partie du pays. Son reportage.
Estimée à 50 000 habitants environ pour une superficie de plus de 1000 km², la population de la sous-préfecture de Hadjer Hadid a pour souci majeur de l'eau. Les châteaux d'eau construits par le gouvernement et les ONG ne fournissent plus d'eau. Ils sont tombés en panne peu de temps après. Et pour leur survie, les habitants font recours à l'eau des puits creusés sur le lit du Wadi Hamra, situé à 2 km de la ville par certains bras valides. L'un des gérants de ces puits artisanaux, Hassan Bakit, explique le mécanisme.
Notre Soudan et traversée par les wadis en provenance du Soudan, nous avons décidé de creuser des puits traditionnels de ce cours d'eau. Ces puits ont une profondeur de 5 à 10 mètres. En saison de pluie, de peur que des wadis ne viennent troubler l'eau des puits, nous scellons des puits et utilisons des pompes à moteur pour servir de l'eau aux colporteurs.
Brahim Ali, colporteur depuis plusieurs années, affirme avoir gagné sa vie avec cette activité, même si la qualité hygiénique de l'eau qu'il vend dans les ménages est douteuse.
Avant, nous consommions de l'eau des châteaux, mais elle est amère. Et maintenant que ces châteaux même ne fonctionnent plus, nous avons trouvé une autre alternative. Nous parcourons 2 kilomètres à dos de cheval pour chercher de l'eau à Wadi Hamra et la revendre au quartier. Nous revendons un bidon de 20 litres à 75 francs aux personnes vulnérables et 100 francs à ceux qui ont un peu de moyens. Les prix d'un fût varient également entre 500 et 600 francs selon le rang social de la personne. Cette activité me permet de prendre ma famille et moi-même en charge.
Selon les notables, Hadjaradit veut dire une montagne en arabe local qui signifie le rocher qui contient des fers. Et donc la localité elle-même est assise sur un socle cuirassé qui ne permet pas d'obtenir de l'eau potable, à moins qu'une étude approfondie soit faite par les spécialistes. Toutefois, le sous-préfet de la localité, Idriss Kony Chidi, lance un appel aux personnes de bonne volonté de venir en aide à la population.
Hadjaradit a un problème d'eau. Se demande des techniciens pour voir de l'eau. Je demande au gouvernement et aux humanitaires qui interviennent dans ces zones qui viennent en secours et les bonnes volontés. L'eau n'est pas traitée. Si les Wadis viennent tout de suite, ils vont prendre leur matériel et ils vont courir. Et je crois que même à l'hôpital, les gens vont faire des sensibilisations pour traiter de l'eau. En eau de Javert, il y a des châteaux qui sont construits par l'État. Mais le problème est qu'il n'y a pas de matériel. Si la château est tombée en panne, pour le dépanner.
André Kodumadjingar de retour de Hadjaradit Ndjamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Nouveau soubresaut dans la politique américaine. Après la démission du secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus, vendredi soir, et son remplacement par John Kelly, c'est au tour d'Anthony Scaramucci, chef de la communication de la Maison-Blanche, d'être limogé 10 jours seulement après son arrivée. Pour une analyse, Clermont Agibeau rejoint en Virginie le professeur Jim Caesar.
C'était assez surprenant parce que cela est arrivé assez vite. Mais quand le secrétaire général a changé à la Maison-Blanche, ce n'est pas finalement un grand surpris.
Que pensez-vous de son successeur John Kelly? Il s'agit d'un profil radicalement différent.
De Reince Priebus, oui, très différent. Alors, mais c'était certainement nécessaire. Reince Priebus a perdu le contrôle de la Maison-Blanche, de tous les conseillers. Il fallait avoir quelqu'un de différent. Alors, John Kelly, ancien général, est très compétent et il aura le respect, si c'est possible, il aura le respect de tous les membres de la Maison-Blanche.
Et selon vous, qu'est-ce que doit faire cette nouvelle équipe pour assainir la vie politique?
Ah oui, énormément de soubresauts. Et il dépend finalement sur le président. On ne peut pas remplacer le président. Donc, on va voir si le président peut vivre les conseils de General Kelly et s'il aura à l'avenir la possibilité de gérer la Maison-Blanche. Et ça va dépendre des décisions du président lui-même. Et avec le président, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Mais pour le moment, ça a l'air d'être une décision qui est très correcte.
Que pensez-vous du futur de cette administration?
L'avenir de président Trump, alors, il va probablement rester en président. Si on regarde le bilan de ce qu'il a fait, on peut défendre son entreprise en tant que président. En tant que son comportement, alors, ça laisse beaucoup à dire. C'est vrai que il n'est pas présidentiel dans son il n'est pas présidentiel. Il est différent d'autres présidents. Il insulte les autres. Il traite des choses favorantes. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans cet aspect du problème. Mais si on suit ce qu'il a fait, alors pour le moment, on peut défendre sa présidence.
Voilà. En Virginie, c'était le professeur Jim Caesar.
Come on. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette émission. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Morgane Guériec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Au revoir.